qu'on est peut-être proche, là. On est le 13 aujourd'hui, là. Où est-ce que vous en êtes? C'est bon de prendre des engagements en début d'année. Ce qui est encore mieux, c'est la persévérance. Pour un athlète olympique qui veut se rendre à Beijing en 2008 ou à Vancouver en 2010, les Jeux d'hiver, leur détermination, leur engagement du 1er janvier, il doit être accompagné de persévérance s'il veut se rendre, s'il veut gagner. La persévérance est quelque chose qui se construit chez l'athlète. Et la persévérance aussi, c'est quelque chose qui se construit chez le croyant. Le croyant, un jour, a dit oui au Seigneur. Le croyant, un jour, a pris sa déterminé de s'attacher à Jésus, de s'engager avec lui. Il l'a reçu dans sa vie comme sauveur personnel, dans la personne de Jésus. Et après ça, il s'est engagé corps et âme à le suivre comme Seigneur. Sauveur, c'est beau et formidable. Mais le Seigneur vient aussi, Jésus vient aussi comme Seigneur. Engagement initial, mais aussi persévérance à marcher. Dans le domaine de la foi chrétienne, c'est la persévérance qui confirme la réalité de la foi. C'est la persévérance qui manifeste la réalité de ma foi. Ce matin, nous allons tourner dans Luc au chapitre 22. On est de retour à l'étude du premier livre de Luc. Et ce matin, on va être dans le chapitre 22. Et on va commencer avec on est rendu au mercredi de la Passion du Seigneur Jésus. Alors, il va mourir vendredi. J'essayais de penser à jeudi ou vendredi, vendredi saint, habituellement, qu'on célèbre cette chose-là. Et on va être maintenant au mercredi. C'était le jour qui précédait, le texte va nous dire, la Pâque. Et la Pâque était l'introduction à une semaine de festivité, la fête des pains sans levain. Dans l'Ancien Testament, c'était bien séparé. Dans le Nouveau Testament, quand Luc va parler aux Grecs, aux gens qui l'enseignent, il ne fait pas la différence. Il dit la Pâque, le début de la fête des pains sans levain, il le met ensemble. Mais on est dans les derniers moments de la vie terrestre de Jésus. Et au moment où on pourrait penser que Jésus, de façon humaine, a le plus besoin des apôtres de réconfort de leur part, on va lire ce matin que Judas fait défection. L'abandon de Judas, son apostasie devient une surprise, une très grande surprise pour les 11 autres. Les 11 autres n'avaient aucune idée que l'apôtre qui était parmi eux aller à la dernière minute comme ça, faire défection. Et ma question ce matin, c'est comment Judas en est-il arrivé à apostasier la foi? Pourquoi est-ce qu'il en est arrivé là? Est-ce que Judas aurait pu éviter un tel scénario? Et peut-être que j'aimerais qu'on se l'applique à nous, pour Judas, il est un peu trop tard. Mais pouvons-nous, nous, éviter un tel scénario? Chez ceux qui nous entourent, chez ceux qui professent la foi chrétienne, mais qui n'ont pas reçu le Sauveur Jésus encore, qui ne marchent pas avec persévérance avec lui. Ce matin, on va considérer Judas Iscariote, pour découvrir à la fois le profil d'un apostat et à la fois des avenues pour combattre l'apostasie. Un sujet assez sombre ce matin. Un sujet qu'on aimerait dire, ben ça existe juste Judas. Ah oui, Judas, là. Vous écoutez des films, puis il a l'air tellement terrible, lui. La Passion de Jésus, la dernière, là, il avait l'air blême, puis il avait l'air... Les artistes qui ont peint la dernière scène, on regarde toujours où est-ce qu'est Judas, puis on le reconnaît. C'est celui qui a le visage le plus écrasé. On a mis beaucoup de pression sur le dos. On a eu beaucoup de préjugés envers Judas. Est-ce que ça peut exister encore ici? Serait-ce possible qu'il y en ait parmi nous? Est-il possible d'éviter ça? Tournons dans Luc chapitre 22 et on va lire les 6 premiers versets. Et d'abord, on va demander à Dieu sa grâce. Oh Seigneur, ta parole est ouverte devant nous. Et on aimerait ce matin la considérer. La considérer pour, pour une autre personne, pour Judas. Mais Seigneur Dieu, je te prie que nous puissions voir à travers ce profil de Judas la possibilité pour n'importe qui parmi nous d'abandonner la foi. Oh Seigneur, utilise ce texte ce matin pour qu'on puisse chacun s'examiner, qu'on puisse redoubler d'ardeur, d'être attaché de cœur avec toi, pas seulement de raison. Oh Seigneur, fais-nous du bien. Parle-nous par ta parole ce matin, nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Vous avez trouvé Luc 22, le premier verset. La fête des pains sans levain, appelée la Pâque, approchait. Les principaux sacrificateurs et les scribes cherchaient les moyens de faire périr Jésus, car ils craignaient le peuple. Or, Satan entra dans Judas, surnommé Iscariot, qui était du nombre des 12. Et Judas alla s'entendre avec les principaux sacrificateurs et les chefs des gardes sur la manière de leur livrer. Ils furent dans la joie et ils convinrent de lui donner de l'argent. Après s'être engagés, ils cherchaient une occasion favorable pour leur livrer Jésus à l'insu de la foule. Un texte court. J'aimerais ce matin qu'on fasse un itinéraire un petit peu de la vie de Judas. C'est drôle, pour nous, on connaît la fin de l'histoire. Mais les apôtres qui ont marché avec Jésus, ils ne connaissaient pas la fin de l'histoire. Comment est-ce qu'ils ont vu Judas? Comment Judas, lui, est entré avec les autres apôtres? J'aimerais dire d'abord que Judas était tout à fait intéressé par Jésus. Il était tout à fait intéressé au Messie. On dit qu'il est d'abord le seul apôtre qui ne vient pas de la Galilée. Il est Judas Iscariot, homme et Kyriote, homme de Kyriote. Et Kyriote, c'est une ville au sud de la Judée. Alors, des 12 apôtres de Jésus, c'est probablement le seul qui vient de la province du sud. La province éduquée. Vous savez, la province du nord, c'est cultivateurs, c'est les agriculteurs, c'est les gens qui font la pêche. Les gens de Judée, c'est les gens plus éduqués. Le Jérusalem, le temple, le gouvernement, toutes ces choses-là. Alors, Judas il vient de la Judée. Judas, la Bible dit, était compté parmi les disciples et Jésus l'a même choisi pour être apôtre. Non seulement on connaît dans le texte que Jésus l'a choisi pour être apôtre, mais il était aussi le trésorier de Christ et des apôtres. Jean 12, verset 6, nous dit qu'il tenait la bourse. Alors on en déduit que ce Judas était quand même une personne qui était considérée parmi les autres apôtres comme un homme prudent, un homme capable d'être un bon administrateur. C'est Judas qui a été choisi trésorier. Y en aurait-tu eu un autre qui aurait peut-être voté pour être trésorier parmi les apôtres? Pourquoi pas Matthieu? C'était publicain, lui, c'était sa job d'être collecteur d'impôts. C'était sa job d'être un... Mais on a choisi Judas pour être le trésorier. Des fois, je me demande, pourquoi est-ce que Jésus a laissé Judas à ce poste-là, sachant la fin avant le commencement? Mais je m'imagine que lorsqu'on place quelqu'un dans son champ d'intérêt... Quand on place quelqu'un dans son champ de compétences, ben, c'est un moyen le plus sûr de protéger sa motivation. Il va travailler dans ce qu'il aime. C'est un moyen sûr d'éviter son désenchantement, d'éviter son apostasie. Jésus lui fait confiance dès le début. Pierre rappelle dans Actes chapitre 1, verset 17, qu'après, il rappelle aux autres, après la résurrection, que Judas était compté parmi nous. Il avait part au même ministère que nous. Judas, il est parti au même niveau que les autres. Un disciple de Jésus qui voulait voir le Messie, qui voulait le servir, qui voulait travailler avec lui. Le début du ministère de Judas était très positif. Et Judas, en réalité, comme les autres apôtres, il devait être attiré à Jésus. il a entendu de Jean-Baptiste que le Messie allait venir. Et il a voulu, dès le départ, s'attacher au Messie. Ce Messie qui allait libérer Israël du joug romain. Ce Messie qui allait amener du succès politique. Judas attendait probablement ce succès politique. Judas attendait probablement ce triomphe militaire. Alors, il s'est attaché à Jésus. Il s'est joint avec enthousiasme dès le début. Est-ce que les autres apôtres avaient des motifs plus nobles, plus élevés, quand ils sont attachés à Jésus? Est-ce que c'est vraiment la pureté du cœur et l'humilité qui les attirait à suivre? Souvenez-vous l'histoire de la mère des fils de Zébédée, Jacques et Jean. Elle va voir Jésus à un moment donné, puis elle dit, « Hey, j'ai une petite requête pour toi. » Puis Jésus dit, « Parle. » Puis elle dit, « Permets que, vous vous souvenez, que mon fils Jean, puis que mon fils Jacques, qu'est-ce qu'il fasse? Soit un à droite, puis soit un à gauche dans ton gouvernement quand tu vas faire. » Y avait-tu des intentions politiques, sociales, d'élever, ou c'était juste l'humilité qui était avec? Même au dernier repas, on va commencer à se chicaner. Quand Jésus part, qui va être le plus grand dans le royaume? Est-ce que Judas était pire? Absolument pas. Il s'est engagé avec enthousiasme. Et je m'imagine que pendant la première année de célébrité de Jésus, Judas devait éprouver beaucoup de satisfaction dans son ministère. Jésus prophétise la venue du royaume. Le royaume de Dieu est proche. Jésus guérit des malades. Jésus fait des miracles. Jésus contrôle la nature. Jésus ressuscite des morts. Les foules se joignent à Jésus. Judas va être content. Mais qu'est-ce que Dieu cherche? Qu'est-ce que Jésus recherche de ses disciples? Le succès politique? Les grandes foules? Où est-ce que Jésus recherche avec chacun de ses apôtres et avec chacun de nous comme ses disciples une relation personnelle, une relation de cœur plutôt qu'un succès politique? Jésus désire une relation intime de foi. Et Jésus, quand il va prêcher, il va commencer à parler de plus en plus de cette relation intime de cœur. Et il va dire, cette relation intime de cœur, elle est si intense, elle est si intime qu'elle s'apparente au manger et au boire. Il va dire à ses disciples, « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Jésus dit à ses disciples que ce qui s'attend de lui en particulier, c'est qu'il y a une relation de cœur intime. Et Jésus dit dans ce moment, dans ce moment très significatif, Jean chapitre 6, il dit, les gens sont autour de lui, puis ils disent, cette parole est dure, qui peut l'écouter? Au verset 60 du chapitre 6. Et Jésus dit, il y en a parmi vous quelques-uns qui ne croient point. Car Jésus savait celui qui le livrerait au verset 64. Je cherche une communion intime qui ressemble au manger et qui ressemble au boire. Et les gens ont dit, cette parole est dure, c'est cette communion dont tu parles, c'est dur ça. Puis Jésus dit, il y en a qui ne croient pas. Et il incluait dans ça Judas, parce qu'il savait qui était celui qui le livrerait. Et la Bible dit que dès ce moment, plusieurs de ses disciples le laissèrent, se retirèrent au verset 66. Et vous savez qu'est-ce que Jésus a dit? Il s'est retourné vers ses apôtres, puis il a dit quoi? Puis vous autres? C'est un bon deal pour vous autres, cette communion-là? Ou si vous voulez vous retirer, vous autres aussi? Là, Pierre a parlé pour les autres. Il a dit, non, moi je cite pour rester, tu es le Christ, le Fils de Dieu, puis on a su que tu étais le Fils de Dieu, puis on reste attaché. Et Judas, lui aussi, il est resté parmi les apôtres. Il est resté jusqu'au dernier soir, sans avoir jamais cru, sans avoir jamais abandonné à Christ sans avoir jamais développé une relation d'intimité personnelle avec lui. Et même Jésus, au dernier repas, il va laver les pieds de ses disciples et il va leur dire, « Vous n'êtes pas tous purs. Vous n'êtes pas tous purifiés. Vous n'êtes pas tous lavés. Vous n'avez pas tous encore eu cette relation intime avec moi. » Et Jean 13, 11, il dit, « Car il connaissait celui qui allait le livrer. » Judas était intéressé à Jésus. Judas s'est approché de Jésus. Judas a marché proche de Jésus. Judas a fait un ministère que Jésus lui demandait de faire. Judas connaissait intellectuellement Jésus. Mais Judas a choisi de ne pas développer de relation intime avec lui. Et quand ça a commencé par ne pas développer une relation intime avec lui, bien à ce moment-là, le désenchantement s'est installé. Et avec le désententement, le péché s'est installé. Et le péché n'a pas été confronté dans sa vie. Ça semble-tu si exceptionnel, ça? Qu'on néglige une relation personnelle avec lui. Puis quand on néglige une relation personnelle avec le Seigneur, bien là, après ça, on commence à être désenchanté de tout ce que le Seigneur demande. Puis après ça, on laisse le péché arriver, puis on ne le confronte pas. Puis au bout de la route, on abandonne. C'est ce que Judas a fait. Il a laissé le désenchantement prendre le dessus. Il a laissé le péché être non confronté dans sa vie. Et on regarde après dans les autres années du Seigneur Jésus. À un moment donné, Jean-Baptiste est décapité. Lui qui avait prêché la venue du royaume aussi. Puis Jésus, est-ce qu'il va le défendre? Non, il se sauve. Il part ailleurs. À un moment donné, Jésus multiplie les pains. On veut se saisir de Jésus pour le faire roi. Et qu'est-ce que Jésus décide? Il se sauve encore. Ça ne l'intéresse pas d'être roi. Il se retire de la foule. Jean 6, 15. Et il commence à enseigner des discours sur la repentance. Il commence à enseigner des discours sur la pureté du cœur. Puis ça, au lieu de lui valoir l'approbation de la foule puis l'approbation des chefs religieux, bien c'est la colère des chefs d'Israël qui se manifeste. Et à la fin de son ministère, Jésus parle de plus en plus qu'il va être rejeté du peuple, qu'il va être rejeté des chefs religieux. En réalité, il dit de plus en plus qu'il va donner sa vie, il va mourir pour le salut du monde. Judas est désenchanté. Sa motivation s'est dissipée. Parce que les aspects moraux, spirituels du royaume ont trouvé peu d'intérêt dans le cœur de Judas. Et il a fait, comme la parabole du semeur nous l'enseigne, Luc chapitre 8, verset 13. Peut-être on pourrait y tourner, c'est dans le même... Luc 8, 13. Il dit, « Ceux, en parlant des semences, ceux qui sont sur le roc... Ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie. Mais ils n'ont point de racines. Ils croient pour un temps et ils succombent au moment de la tentation. » Le mot « succomber », littéralement « apostasie ». Ils apostasient au moment de la tentation. Judas a laissé le désenchantement prendre le dessus plutôt que développer une relation intime avec Jésus. Judas a laissé le péché non confronté. Il était trésorier. Il devait avoir plein de joie à servir comme trésorier dans ses compétences. Mais lui aussi, au sein de la trésorerie, il y a eu des tentations et des aptitudes à bien faire sans la communion avec Jésus sont devenues des dangers. Dans sa vie, des dangers en réalité qui ont contribué à sa ruine. Parce que Jean nous a dit que Judas a commencé à voler la bourse. Jean chapitre 12, verset 6. Et il n'a pas confronté son péché. Il a commencé à utiliser les ressources communes pour son bien-être personnel. et ce péché-là de prendre le bien puis de le prendre pour lui-même, ça s'est manifesté de plus en plus au grand jour lors du repas d'adieu qu'il y a eu à Béthanie dans la maison de Marie, Marthe et Lazare. Vous vous souvenez à ce moment-là, Marie, elle avait choisi de prendre une livre de parfum de nard de grand prix et de briser ça et de le placer à embaumer Jésus, dire, et le parfum se répand partout. Pour Marie, un geste d'adoration, un geste de consécration. Mais Judas, il est offusqué par ça. Puis il dit, voyons donc, ça n'a pas de bon sens, la fête de même. Il faut aller le vendre, puis prendre soin des pauvres. Ça, c'est ce qu'il dit. Jean, il dit, ben, il y avait une autre petite histoire, là. Parce que c'est lui qui tenait la bourse. Puis ce qui rentrait dans la bourse, il s'en servait. Péché non confronté, et à travers ses aptitudes de service sans communion, ça l'a fait développer son péché. Et la Bible dit qu'il est devenu traître. Il est devenu apostat. Il n'a pas commencé comme ça. Au seuil de la dernière semaine, Judas, apôtre de Jésus-Christ, dit dans Actes 1, 25, il a abandonné son apostolat, dit Pierre, et il est devenu traître, Luc 6, 16. Il est venu pour la dernière semaine, et comme on a lu, à la dernière semaine à Jérusalem, les autorités religieuses avaient décidé de mettre la main sur Jésus. Il n'y avait plus rien à faire avec lui. Récemment, il avait même ressuscité un mort de 4 jours, puis tout le monde avait vu ça, puis là, hey, tout le monde voulait s'attacher à Jésus, il fallait se débarrasser de Jésus. Alors, à Jérusalem, les autorités religieuses voulaient mettre la main sur lui, ils voulaient le mettre à mort, mais ils voulaient que ça soit à l'extérieur des records de la foule. Alors, il avait donné l'ordre, on voit ça dans Jean 11, 57, il avait donné l'ordre que si quelqu'un savait où il était, il le déclara, afin qu'on se saisisse de lui. Alors, les autorités y avaient dit, si quelqu'un sait où est Jésus, dites-nous-le, puis on va chercher un moyen de le prendre. Et c'était exactement ce qui est arrivé. À ce moment-là, Judas a trouvé l'occasion où, pour la première fois, il a abandonné l'autorité de son âme à Satan. Il a abandonné cette autorité de son âme à Satan, et Satan entra dans Judas, nous dit le verset 3. Judas alla s'entendre avec les chefs religieux, avec les gardes du temple. Comment est-ce qu'on va faire pour aller chercher? Je connais un endroit secret, moi, où est-ce qu'on se rassemble souvent pour prier la nuit dans le jardin des Oliviers. C'est caché. Il s'entend avec les gardes du temple pour livrer Jésus à l'extérieur des regards de la foule, à l'insu de la foule. Et ils s'entendent ensemble sur un prix pour le tuyau. Et ils s'entendent que Jésus vaut le prix d'un esclave. Un mois de salaire. 30 pièces d'argent. Satan n'est pas entré par force dans Judas. Judas l'a laissé faire son travail destructeur. Judas l'a laissé remplir son cœur de mensonges. Judas l'a laissé remplir son cœur d'indépendance de Jésus. Puis au lieu de développer sa relation avec Jésus, Jésus a donné accès au diable dans sa vie et par la suite, il est tombé sous son emprise. Et quand Judas a abandonné son âme à Satan, Satan a pu avoir libre cours avec sa vie. Il est entré lorsqu'il était vers les sacrificateurs. La Bible dit qu'au dernier repas, dans Jean 13, 2, il nous dit qu'il a entré de nouveau dans le cœur de Judas au dernier repas, alors qu'il a accepté le morceau de pain, la main de Jésus. Le diable avait déjà mis dans le cœur de Judas le dessein de le livrer, dit Jean 13, 2. Ah, Judas. Est-ce que c'était juste parce qu'il était prédestiné? Je pense que si je regarde la vie de Judas comparée aux autres apôtres, je suis persuadé que pendant ces 3 années-là, on n'aurait pas pu voir la différence par l'extérieur. de qu'est-ce que Judas était puis qu'est-ce que les autres apôtres étaient. Y a-tu fait pire que Pierre? Pierre aussi a trahi Jésus. Ça aurait pu arriver à n'importe qui. L'apostasie, ce n'est pas un phénomène exceptionnel comme on aimerait le croire. L'apostasie, c'est plus commun qu'on le pense. On comprend ça dans le monde en général. La Bible dit qu'il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme impie dans 2 Thessaloniciens 2-3. Dans le monde en général, on comprend ça, qu'il y aura un détournement des valeurs de la foi chrétienne qui va mettre le plancher, le tableau pour la venue de Jésus-Christ. On comprend ça pour le monde en général. Mais réalisons-nous que l'apostasie est un phénomène qui a beaucoup plus souvent sa source au sein de l'Église. Je ne dis pas qu'un chrétien il devient apostat, non, non. Mais au sein de la communauté visible qu'on appelle l'Église, c'est là où l'apostasie se développe le mieux. L'apostat, c'est, la Bible dit que dans Matthieu 13, c'est l'ivraie. C'est l'ivraie parmi le blé. C'est l'ivraie qui ressemble au blé, mais qui n'est pas du blé. C'est l'ivraie qui pousse comme le blé, mais dont les fruits sont différents, bien entendu. Apostasier, c'est se détourner de la foi qu'on a professée à un moment donné. Apostasier, c'est renoncer à la foi qu'on a cru intellectuellement. Apostasier, c'est abandonner définitivement le Christ qu'on s'était approché pour un moment donné choisir définitivement de marcher seul dans la vie. 1 Timothée chapitre 4 verset 1 dit « Dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. » Littéralement, quelques-uns apostasieront la foi. L'apostat, il ressemble au rétrograde. On aimerait bien que ce soit juste un rétrograde. Quelqu'un qui s'est attaché à la communauté chrétienne, qui était présent, qui est là, puis à un moment donné, on ne voit plus, puis on dit, c'est un rétrograde. Mais il a fait profession de foi. Il est sauvé, alors il va être au ciel de toute façon. Et l'apostat, il ressemble au rétrograde. Parce que c'est quelqu'un qu'on a vu parmi nous, puis qu'à un moment donné, on ne voit plus. Mais nous, on ne sait pas la différence. Est-ce qu'il y a eu vraiment une relation personnelle? Est-ce qu'il y a vraiment eu une conversion dans son cœur? Ou est-ce qu'il y a eu simplement une adhésion intellectuelle? Voyez-vous, le rétrograde, il se ressaisit, alors que l'apostat abandonne complètement. Pierre, l'apôtre Pierre est un exemple de rétrograde. Il a trahi le Seigneur, mais il s'est repenti. Il est revenu dans les bras de Jésus. Judas est l'exemple de l'apostat. L'apostat qui sait qu'il a mal fait, qui a des remords, mais qui a des remords sans vraie repentance. Judas a eu des remords d'avoir trahi Jésus. Est-ce que ça l'a ramené à Jésus? Non, il a continué plus loin, jusqu'au suicide. Judas a eu des remords, mais la Bible dit la tristesse, selon Dieu, conduit à la vraie repentance, à une repentance dont on ne se repent jamais, tandis que la tristesse du monde mène à la mort. 2 Corinthiens chapitre 7, verset 10. Comprenons que l'apostasie, ce n'est pas un phénomène exceptionnel. Comprenons aussi qu'il y a toujours un équilibre entre la souveraineté de Dieu, puis le choix de l'être humain. Dieu connaissait à l'avance, évidemment, le choix de Judas. Et dans la Bible, il nous est mentionné que même Dieu allait utiliser l'apostasie de Judas pour l'accomplissement de son plan rédempteur. Mais du côté de Judas, Judas a vendu Jésus en toute conscience. La souveraineté de Dieu n'excuse jamais la culpabilité de l'homme. Jésus le disait un peu plus loin, on va le voir dans Luc chapitre 22, le verset 22 aussi. Jésus va dire, le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est déterminé. Ah, il y a un plan de Dieu, puis le Fils de l'homme va mourir selon ce qui est déterminé, puis il va mourir à travers la trahison, il va mourir à travers le fait que c'est Dieu va frapper le berger, puis les brebis vont être dispersées. Juste Judas. Non, c'était compris que les douze allaient sacrer le camp quand le berger allait être frappé. Oui, il y avait des choses qui étaient déterminées. Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est déterminé. Mais Jésus dit, mais malheur à l'homme par qui il est livré. Lui aussi, il a une responsabilité. Il a vendu Jésus en toute conscience. Personne ne décide en s'approchant de Jésus de devenir un apostat. La personne ne prend simplement pas les moyens de progresser d'une foi intellectuelle à une foi qui est relationnelle. Et cette foi relationnelle, il n'est pas question d'une simple adhésion de la raison, mais il y a un attachement de cœur à la personne de Jésus. Et il y a besoin de progresser vers ça. Ça nous est arrivé dans le passé de rencontrer des gens qui avaient une adhésion intellectuelle de la foi. On croyait que c'était des croyants, on avait de la joie à travers. Puis à un moment donné, une dame en particulier que je me souviens, on donnait un lift en voiture, puis elle dit, « René, sais-tu quoi? Je me suis converti cette semaine. » « Ah oui! Ça fait 2 ans qu'on te transporte! » Elle dit, « J'avais ça, je comprenais, mais cette semaine, c'est du cœur que je me suis donné à Jésus. » Quelle différence! Un attachement de cœur. Et savez-vous, Jésus, pour sa part, la Bible dit qu'il demeure toujours à la porte de notre cœur, à la porte du cœur, pour entrer dans celui qui ouvre la porte. Apocalypse 3:20, je me tiens à la porte et je frappe, dit Jésus, celui qui entend ma voix et qui ouvre la porte, je vais entrer. Jésus demeure toujours prêt. Jésus, si vous regardez sa relation de sa part envers Judas, jamais Jésus n'a manifesté de rejet envers Judas. Jésus a appelé Judas. Jésus lui a donné des responsabilités. Jésus l'a encouragé à être son pain de vie. Jésus l'a même appelé ami en se laissant embrasser par lui lors de son arrestation. Comment est-ce qu'on combat ça, l'apostasie? C'est-tu possible? Ce danger d'apostasie devrait nous interpeller tous. Mais les Écritures nous encouragent, par exemple, à combattre ce danger d'apostasie. Comment est-ce que je peux faire ça? Comment est-ce que, personnellement, je peux combattre ce danger d'apostasie? On peut tourner dans 2 Corinthiens 13, 5. L'église de Corinthe était une église pleine de dons, pleine de manifestations visuelles de la puissance de Dieu puis de l'Esprit de Dieu dont ils étaient fiers. Des enseignants doués, mais aussi des apostats. Et Paul plutôt, lorsqu'il termine 2 Corinthiens chapitre 13, verset 5, il dit aux gens dans l'église, examinez-vous, examinez votre relation avec Dieu. 2 Corinthiens 13, 5. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? Quel est le lien? Quelle est la chose importante pour se tester, pour s'examiner? Ne reconnaissez-vous pas que Christ est en vous? Reconnaissez-vous pas que vous avez une relation avec Jésus ou est-ce que c'est juste quelque chose d'intellectuel, vous avez changé de religion? Reconnaissez-vous que Christ est en vous? À moins peut-être que vous ne soyez désapprouvés. Examinons nos cœurs pour s'assurer qu'on est vraiment dans la foi. Jésus disait dans Jean chapitre 15 verset 4 de demeurer fermement attaché au cèpe. Demeurez en moi, parce qu'il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est ça notre lutte. C'est ça notre motivation la plus importante dans la vie chrétienne, de demeurer accroché à Jésus afin que lui produise des fruits en nous. Ça, c'est la nouvelle alliance. On a vu ça dans une partie ce matin avec l'école du dimanche. Dieu veut produire son fruit en nous. Et j'ai besoin de demeurer fermement attaché à lui. Jacques, chapitre 4, verset 7, nous dit de se soumettre à Dieu en résistant au diable. Pierre nous dit dans 1 Pierre 1, verset, chapitre 5, verset 8 et 9, de résister au diable avec une foi ferme. Éphésiens 4, les versets 26 et 27, ils nous disent de confronter le péché afin de ne pas donner accès au diable par un cœur non repentant de son péché. Oui, personnellement, il est possible de combattre l'apostasie en examinant nos cœurs, en s'assurant qu'on demeure fermement attaché au cèpe, en se soumettant à Dieu, en résistant au diable. Et la promesse, c'est qu'il va fuir loin de nous. Mais collectivement aussi, tournez s'il vous plaît dans Hébreux chapitre 10. Hébreux chapitre 10, verset 25. Voyez-vous, les Hébreux avaient particulièrement ce danger-là. Parce que le judaïsme, c'était une très bonne religion. Et Jésus était venu apporter une nouvelle alliance. Il était le sacrifice parfait, le sacrificateur parfait. Et c'était possible facilement pour les Hébreux de changer d'une religion judaïste à une autre religion, le christianisme. Mais il y avait cette dimension que le christianisme est dans le cœur. Et quand les Hébreux faisaient juste switcher du judaïsme au christianisme sans changement de cœur, ils trouvaient la vie chrétienne difficile et la pression était forte. Alors, il y avait le danger de revenir en arrière. L'auteur de Hébreux 10, de Hébreux, nous dit au chapitre 10, verset 25, « N'abandonnons pas notre assemblée, n'abandonnons pas de se rassembler les uns les autres, de passer du temps l'un à l'autre. » Il ne parle pas nécessairement du dimanche matin, la célébration, mais n'abandonnons pas de notre communion fraternelle, nos relations interpersonnelles, notre exhortation réciproque. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns. Il y en a qui développent plus ces liens-là les uns vers les autres. Mais exhortons-nous plutôt, exhortons-nous réciproquement. Et cela d'autant plus que vous voyez approcher le jour. S'exhorter réciproquement. Ensemble, les Hébreux, comme nous, ils devaient se tenir. Ils devaient faire attention de ne pas glisser loin de Jésus dans leur cœur. Et par encouragement mutuel, ils devaient tenter de s'approcher les uns des autres. S'exhorter réciproquement. S'approcher les uns des autres pour que si la personne n'est pas convertie encore, qu'elle se convertisse. Et si, bien entendu, la personne est convertie, bien, la communion mutuelle, l'exhortation, c'est pour demeurer ferme, pour persévérer. Les personnes qui pourraient nous visiter, qui pourraient même s'approcher, qui peuvent faire corps avec nous, si je peux dire. Ces personnes, à un moment donné, qui vivent le désenchantement, ces personnes qui décrochent, ces personnes qui abandonnent, sont d'autant plus difficiles à gagner à nouveau pour l'Évangile. Alors, on a besoin de prendre soin les uns des autres. On a besoin de s'exhorter réciproquement. Devant ce texte-là, comment est-ce que je dois réagir? Ah, moi, je ne suis pas Judas. Pas Judas, puis je suis un chrétien, je suis certain d'être sauvé, alors je ne vais pas me préoccuper de ça. Ça ne m'arrivera jamais. Première chose que je dois faire de mon cœur, est-ce que ma foi est un simple assentiment intellectuel? Ou est-ce que ma foi a engagé tout mon être, mon intelligence, ma volonté, mon cœur, mes affections? Le salut, je veux que vous compreniez bien, il n'est pas conditionnel à la persévérance. On n'est pas sauvé si on persévère. C'est pas ça que je suis en train de dire. Je suis en train de dire que la personne qui est vraiment unie à Jésus-Christ, qui a une relation avec lui, a la responsabilité d'investir dans cette relation-là, et la manifestation de la réalité de cette foi-là, ça va être la persévérance. C'est pas pour être sauvé que je persévère. C'est parce que je suis sauvé, puis que j'ai une relation avec Dieu, parce que Dieu peut agir en moi, que je vais persévérer. La persévérance est une caractéristique du salut, une marque du chrétien. Alors, je peux me poser la question aussi, est-ce que je suis un chrétien qui est un ami qui motive les autres à s'approcher de Jésus, à goûter comment le Seigneur est bon pour ceux qui m'entourent? Est-ce que je suis un bon exemple qui répand la bonne odeur de Jésus autour de sorte que les gens sont attirés à lui? Et comme chrétien, j'aimerais vous demander, vous exhorter de louer le Seigneur. Une chose que je méditais cette semaine qui réjouissait mon cœur. Jésus ne nous abandonne jamais. C'est jamais lui qui s'éloigne. C'est toujours nous. Remerciez Dieu que Jésus est là. Si ce matin vous dites, Seigneur, je veux avoir une relation plus intime avec toi, sachez qu'il ne vous dira pas, bon, ben, je vais regarder mon agenda, je te rencontre dans 2 semaines à 8h15. Il est là. Il est toujours là. Il attend de notre part qu'on se tourne vers lui. Louons-le pour ce fait de sa fidélité. Son amour nous poursuit constamment afin de développer une relation toujours plus intime avec lui. Faites-lui confiance de plus en plus, il en est digne. Dieu aussi est le seul qui connaît la fin de nos vies. Et c'est le seul qui sonde plus profondément nos cœurs. Notre part à nous, c'est de la manifester notre foi et de la manifester avec persévérance. J'aimerais terminer avec un texte de 2 Timothée, chapitre 2, verset 19, qui manifeste ces deux éléments-là, le fait que Dieu connaît nos cœurs et le fait aussi que si nous connaissons le Seigneur Jésus, Dieu nous appelle à nous éloigner du péché, à communier avec lui. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Ça, c'est la partie du Seigneur. Et quiconque prononce le nom du Seigneur, vous dites, moi, Jésus, c'est mon Seigneur, bien qu'il s'éloigne de l'iniquité. Oh, que la personne de Judas puisse nous interpeller, nous motiver à avoir des relations interpersonnelles pour nous encourager à développer de façon plus intime notre relation avec Dieu, plutôt que d'être indépendants les uns des autres et malheureusement voir des gens glisser et disparaître. Oh Seigneur Dieu, merci. Merci pour ta parole. Seigneur, merci pour la proximité de ta personne dans nos vies. Seigneur, comme je veux te prier pour ma propre vie, comme pour celle de mes frères et de mes sœurs, que l'importance de cette communion avec toi soit toujours plus grande. Qu'elle puisse motiver nos actions plutôt que d'avoir des actions simplement pour te plaire. Oh Seigneur, merci d'être disponible. Donne-nous, Seigneur, de t'aimer, de nous attacher à toi, de demeurer en toi, afin de porter du fruit, un fruit qui demeure. Et nous t'en remercions au nom de Jésus. Amen.
Je vais vous lever pour le dernier chant. On va refaire le chant qu'on a fait tantôt, nous croyons. Merci. Je voudrais rappeler pour tous ceux qui s'impliquent au niveau de la louange, mais la rencontre, c'est à 12h30, le temps que chacun a cherché son lunch, et on va dîner sur place au sous-sol. C'est ça, David? Donc, 12h30 pour tous ceux qui s'impliquent à la louange. Merci beaucoup, bon dimanche et à ce soir. Thank you.